Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vendredi soir, dans ce bâtiment, il y avait une rencontre qui reprenait. Depuis mi-mars, elle s'était arrêtée. C'était la rencontre où quelques amis brésiliens se retrouvent autour de la parole. Et j'aurais proposé de prendre ce psaume comme base de partage, d'échange. C'est intéressant de voir comment ce qu'ils ont pu dire des choses qui touchaient leur cœur concernant le fait de bénir Dieu, de louer Dieu. Et nous sommes allés sur des éléments très concrets de la vie quotidienne. Il y en a un, par exemple, pas le nommé, qui s'appelle Eduardo, qui est derrière la console aujourd'hui, qui disait, mais il faisait allusion au psaume 3 concernant les nuits de repos. Cette affirmation du psalmiste, je me couche et je m'endors car l'Éternel est mon soutien. En disant, finalement, est-ce que on prend l'habitude, j'avais l'impression qu'il l'avait fait, cette démarche, est-ce qu'on prend l'habitude le matin de pouvoir remercier Dieu simplement parce que, voilà, il a été avec nous pendant la nuit, il a veillé sur nous, et puis on va pouvoir s'élancer dans une nouvelle journée. Il y a un autre frère brésilien qui s'est exprimé et qui a partagé aussi des choses qui m'ont beaucoup touché par rapport au corona. Vous savez qu'au Brésil, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes par le corona et il y avait des personnes qui étaient là, qui avaient des membres de leur famille qui étaient affectés par le corona. Et ils disaient, mais quand on voit des gens qu'on aime et qui ont tellement de peine à respirer, on se dit que finalement, ce qui nous semble tellement naturel de pouvoir respirer, ben, ce n'est pas si évident que ça pour pas mal de personnes aujourd'hui. Et ça a été le cas à chaque époque. Et c'est dire que cette dimension de la louange est quelque chose de très, très fort dans ce psaume. Vous avez vu cette image tout à l'heure, rechargez vos batteries. C'était à la Vallée du Joux il y a quelques jours, vers une station, on pouvait recharger pour les voitures électriques les batteries. Ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, mais ce psaume, personnellement, il m'a permis d'être rechargé dans mes batteries spirituelles aussi. Et c'est des éléments que je voudrais souligner, bien sûr, ce matin. Que dire de ce psaume? Les superlatifs ne manquent pas pour essayer de résumer en quelques mots. C'est apparu sur l'écran tout à l'heure. Un hymne à l'amour. Certains disent c'est un Himalaya. Moi, j'ai envie de dire c'est la chaîne de l'Himalaya avec plusieurs grands sommets. D'autres disent c'est une histoire biblique en condensé, c'est une Bible en miniature. Je trouve ça absolument délicieux. Je disais aussi, personne qui exprimait, un commentateur, qui disait, mais derrière chacune de ces déclarations de grâce, il me semble voir le visage de Jésus-Christ. Sa personne, son œuvre, et entendre Jésus nous appeler. Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Restaurer votre âme, mais aussi notre corps, notre esprit, l'ensemble de notre personne. J'ai été interpellé par beaucoup de choses, bien sûr, et certainement que vous également, si vous avez découvert ces paroles. Et c'est essentiellement des affirmations qui sont alignées. C'est un psaume uniquement de louange. C'est impressionnant, il n'y a aucune demande. Alors que moi, je suis tellement prompt le matin à dire tout de suite « Seigneur, au secours !» Et puis j'aligne toute ma liste de commissions. Et je dois faire un effort. Ça m'est pas naturel de juste commencer la journée en disant « Je te loue, Seigneur, je te bénis, tu es magnifique, j'ai eu une nuit qui était bonne, ou bien parfois elles sont agitées, mais merci pour toutes les nuits qui ont été bonnes. » Et etc. Mais c'est juste magnifique de voir tout ce qui est aligné comme affirmation de son action dans nos vies. Ça commence par celui qui pardonne toutes tes fautes. J'ai personnellement été plus attiré par d'autres aspects. Dans ces versets 3 à 5, par exemple, il est question notamment de cette affirmation, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh, moi je ne suis pas encore un vieillard, mais ça j'ai pris avec bonheur. Il te fait rajeunir comme l'aigle, je me suis dit, waouh, le plein d'énergie. Mais cette question du pardon, j'avoue honnêtement que je suis allé plus vite sur « il te guérit toutes tes maladies » que sur le pardon, parce que c'est tellement connu le pardon. C'est un peu banal, a priori. Mais j'ai été remis en question. D'abord parce qu'à plusieurs reprises, il est question de faute, de péché, de transgression, d'iniquité. Ça recouvre toutes sortes de dimensions, en réalité, de nos fragilités. Et malheureusement, chaque jour, nous péchons. Et certainement, moi, beaucoup plus que vous. Oui. Parce qu'en principe, on a eu un ministère pastoral, j'ai plus de possibilités de connaître Dieu, d'approfondir sa parole, mais c'est aussi une sacrée responsabilité. Et chaque fois que je me penche sur cette dimension-là, je me dis, Seigneur, est-ce qu'il y aurait des choses que tu voudrais me montrer? En principe, on dit, Seigneur, je n'ai pas fait de mal, mais le Seigneur peut nous dire, et qu'est-ce que tu as fait de bien? C'est des fois un peu plus compliqué de ce côté-là. Se dire, bien sûr, on essaye de ne pas faire du mal. Cette question, cette notion du pardon est quelque chose, en réalité, de tellement vital, tellement prioritaire. De là dépend notre relation possible avec Dieu, notre communion intime avec lui. Et nous savons que si Dieu continuera de nous aimer pendant toute notre existence, en réalité, dans cette relation, dans cette communion avec lui, il peut y avoir comme un voile qui nous empêche de vivre cette plénitude de l'esprit à laquelle le Nouveau Testament nous invite. Et dans ce texte du psaume 103, toujours, ça ne suit pas sur mon écran, c'est pour ça que je me retourne, excusez-moi. J'ai été impressionné par ces affirmations. Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. On voit tout d'un coup que ce psaume passe d'une louange personnelle à une louange collective. David pense à tout ce qui s'est passé avant son règne vers l'an 1000, lors de la sortie d'Égypte, mais déjà avant, bien sûr, quand les enfants d'Israël ployaient sous le joug, sous le fardeau, les fardeaux que Pharaon avait mis sur ses épaules. Et Dieu a exercé sa compassion, mais il y a eu une délivrance magnifique. Il y a eu cette révélation sur le mont Sinaï, des voies de l'Éternel, des directives de son alliance, de ses promesses. Et puis, ce peuple a pu entrer dans la terre promise à un moment donné. Ses voix à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Mais ce qui me trouble, c'est que c'est suivi immédiatement par ces précisions. Il ne conteste pas son fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et là, bien sûr, on repense à à ce parcours justement des enfants d'Israël, qui certes ont été délivrés de manière miraculeuse, spectaculaire, qui ont été nourris par la manne dans le désert, mais qui, assez rapidement finalement, ont été ingrats, sont devenus idolâtres, ont râlé, pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir d'Égypte ? On mangeait mieux là-bas. Qui ont passé complètement à côté de cet appel, de la grandeur de cet appel, de cette vocation. Et c'était si terrible, si redoutable, que toute cette génération qui est sortie d'Égypte n'est pas entrée dans la terre promise, excepté Josué et Caleb. C'est dire que nous aurons, et c'était aussi le cas de David, on le sait bien, qui était pourtant un roi magnifique en Israël, le plus grand roi d'Israël, nous aurons toujours des luttes, des combats avec le péché. Et nous aurons toujours besoin de goûter, d'apprécier tout à nouveau la force, la puissance du pardon que Dieu veut nous accorder. Et je crois que plus nous serons conscients de nos fautes, de nos péchés, parce que Dieu nous le montrera, et plus on va apprécier ce qu'est la miséricorde, ce qu'est la compassion, ce qu'est la grâce. Et vous savez que malheureusement dans le protestantisme, et dans le monde évangélique peut-être encore davantage que dans le protestantisme, on a par réaction au catholicisme mis de côté la confession. Cette confession qu'on peut pratiquer tout seul, avec Dieu bien entendu, mais est-ce qu'on use de ce privilège ? Mais aussi également, on peut le vivre à plusieurs, à quelques-uns, où on peut confesser nos péchés devant les autres. Et c'est sur ce point-là particulièrement que ce psaume, je ne vous le cache pas, m'a surtout interpellé et me parle encore. Je vais un petit peu plus loin pour parler de cette louange qui correspond aux bénédictions nombreuses que Dieu nous a accordées. Et ces versets 17-18 me permettent de souligner que la grâce de Dieu, c'est jamais une grâce à bon marché. Cette bénédiction est finalement conditionnelle. Ces versets 17-18 donnent des paroles aussi, je trouve, magnifiques, surtout quand on est grand-père, par rapport aux enfants et aux petits-enfants, à notre descendance. On sait que Dieu est un Dieu qui veut nous donner un avenir fait d'espérance. Mais on n'a pas prise sur ce que vont vivre nos enfants, nos petits-enfants, par rapport à la foi. Et pourtant, il y a l'affirmation, la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Et ces commandements, il faut quand même le souligner, c'est pas « tu dois pas, tu dois pas, tu dois pas ». Essentiellement dans l'expression « les commandements », c'est l'ensemble des directives de Dieu, c'est précieux, il nous donne des directives. Il nous donne des conseils, sa parole contient des chapitres entiers de sagesse à pouvoir manifester dans notre vie concrète, quotidienne. Mais quel précieux trésor! Il y a plein de promesses, bon, bien sûr l'assurance de la vie éternelle, mais par rapport à sa fidélité, au fait qu'il marche avec nous. Mais il y a quand même, c'est pas juste le bon Dieu hein, qui est là, ce Dieu de l'Alliance. Il y a quand même ces dimensions de sainteté, de justice qui nous interpellent, qui doivent nous rejoindre. Et ce psaume peut être aussi une occasion de remettre les pendules à l'heure. Et certainement que ce temps du Covid que nous traversons doit favoriser une remise en question au sein du peuple de Dieu. Au plan personnel, mais je pense aussi communautaire. Le Seigneur, je crois, permet de telles périodes difficiles, douloureuses, comme il l'a fait avec Moïse et le peuple hébreu dans le désert, pour nous revisiter à quelque part, nous donner quelques éléments complémentaires de sa révélation pour que nous puissions saisir les éléments qu'il voudrait nous communiquer en vue d'être témoins dans tout ce qu'on peut être et vivre au sein de notre société. J'aimerais terminer par être un petit peu plus personnel dans un épisode de ma vie qui a été très, très riche pour moi ces dernières années, en même temps qui a été douloureux ces derniers mois, c'est le décès de Jean-Paul Jacques. Depuis le début de cette année, je sentais Jean-Paul dans nos rencontres régulières qui commençait à manifester des signes un peu d'interrogation par rapport à sa santé. Ça s'était déjà produit dans le passé, je ne me suis pas trop inquiété. Mais à un moment donné, au mois de mars, il a demandé une onction d'huile. Et nous avons organisé un temps d'onction d'huile. Et Jean-Paul avait fait cette référence au texte de Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Et Jean-Paul était très clair, il disait « Je ne demande pas la guérison ». Arrivé à 86 ans, ce n'est pas ce que je demande. Mais j'ai besoin de vivre ce temps avec mes frères et sœurs de partage. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Et dans cette période, Jean-Paul avait reçu une image. Il aimait beaucoup prendre du temps avec Dieu dans sa chambre haute. Il recevait assez régulièrement des images et quand on se voyait, il me les partageait, il me disait, j'étais toujours un peu tendu quand même, parce qu'il me disait, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que Dieu nous dit? Bon. Et concernant cette image d'un radiateur, eh bien, qu'il avait reçu, où il a eu un radiateur, il fallait purger l'air du radiateur. Il y a l'eau qui passe dans les circuits et puis s'il y a des bulles, ça fait des bruits. Et puis, il se voyait purger ce radiateur, mais en même temps, il se disait, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Et puis, pour lui, la conviction qu'il avait reçue, c'était concernant justement des fragilités, des faiblesses, peut-être du péché qui était là. Il ressentait le besoin de pouvoir se mettre devant Dieu, devant témoin, parce que, disait-il, je vais bientôt traverser cette dernière vallée qui va me conduire dans la plénitude de la présence de Dieu. Et si le Seigneur me l'a montré, c'est que je ressens le besoin aussi de mettre ma vie à plat devant lui, de lui demander en toute simplicité qu'il me montre s'il y a des choses à mettre encore en règle dans mon existence. Parce que je ne voudrais pas que dans cette vallée profonde, le diable puisse venir me déstabiliser en me culpabilisant. Waouh! Je vous garantis que ça touchait mon cœur. Et puis, Covid oblige, nous n'avons pas pu avoir ce temps d'onction d'huile. Alors, on était tous un petit peu désemparés de ne pas pouvoir vivre ce moment avec David Rosset notamment et d'autres qui avaient été conviés à ce temps. Et c'est à ce moment-là que la Ligue m'avait proposé de faire des notes pour le guide sur le psaume 103. Donc j'ai commencé à lire à ce psaume 103, j'ai commencé à le méditer. Et j'ai osé dire à Jean-Paul, écoute, tu es d'accord? Et par téléphone, on a plusieurs fois commencé à lire ce psaume ensemble. Tu te rends compte les affirmations qui sont là, comment est-ce que tu peux les vivre? Puis il est question du pardon, il est question de la grâce de Dieu, de sa bonté, de sa compassion, tout au long de notre existence. Et voilà, on a pu encore nous entretenir au téléphone pendant que c'était possible. Quand est arrivée l'heure du départ, j'ai eu le privilège avec Michel et Anne-Catherine encore de passer une heure de temps ensemble. On était les trois moments après, j'étais seul un moment avec Jean-Paul. Où Jean-Paul savait très bien qu'il allait bientôt voir son Seigneur. Et quand j'ai pu être seul avec lui, on a passé un moment à prier. Il n'avait plus beaucoup de force, ce n'était pas toujours évident d'entendre ce qu'il voulait dire, mais j'étais juste reconnaissant parce que je voyais que le Seigneur avait été fidèle avec lui d'une manière incroyable. Il avait redouté d'être seul dans sa fin de vie. Il disait, mais tu sais, souvent dans ces moments-là, quand même, on est tout seul. Voilà. Et on a eu un moment de prière encore, c'était stupéfiant pour moi, de voir comment il arrivait encore à bénir Dieu sur son lit, qui était le dernier endroit où il allait être sur cette terre. Et sa dernière parole a été de dire, Guy, de ma part, bénis tous les frères et sœurs de la fraternelle. Bénis tous les frères et sœurs de la fraternelle. Alors, je n'ai pas eu encore l'occasion de vous le dire. Il fallait que ça puisse se donner. Mais j'aimais bien demander à Jean-Paul de temps en temps la prière du patriarche pour les personnes avec lesquelles on cheminait. Et puis sur moi ou sur nous, avec Paul Rochat qui nous accompagnait dans un trio de prière. Mais là, j'ai trouvé cette parole tellement formidable. Donne ma bénédiction. Et bénir Dieu, ça veut dire du bien de lui. Bénir les autres, ça veut dire qu'on souhaite le meilleur pour eux. On est reconnaissant pour qui ils sont. Et j'ai envie de vous dire vraiment que pour Jean-Paul, vous étiez très précieux à ses yeux, à son cœur. Et de sa part, entendez encore qu'il vous bénit. Je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel pour lui, dans la présence du Seigneur, mais je crois que c'est aussi bon qu'on puisse entendre ses paroles. Alors, on va chanter maintenant un cantique qui me semble refléter l'ensemble de ce que je vous ai partagé et des éléments essentiels de ce psaume. Et on pourrait se lever. C'est un chant qui dit « Béni ô mon âme ».